Éphésiens chapitre 4, verset 4, un sujet éminemment pratique. Le titre pourrait être celui-ci, les fondements de la communion fraternelle. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Amen. Il y a un seul corps. Et nous savons que l'Église, merci Seigneur, ne se résume pas au nombre que nous sommes aujourd'hui. Nous savons que l'Église ne se résume pas à l'Église actuelle, aux églises locales qui sont rassemblées en France ou partout ailleurs. Mais nous savons que l'Église est également une Église universelle qui trouve sa naissance, qui trouve son essence dans le temps, mais également dans la géographie. Nous savons qu'il y a une grande nuée témoin qui nous a précédés, une des hommes, des femmes qui ont marché devant nous et qui composent, au même titre que nous, l'Église. Celle que le Seigneur appelle également son corps et dont il est la tête. Nous sommes unis les uns aux autres, chaque membre que nous sommes unis ensemble d'une manière spirituelle et d'une manière réelle par le fait que nous avons un même esprit qui vit en nous. Nous avons été rachetés par le même sang, nous avons été rachetés par la même œuvre. Nous sommes rentrés tous d'une manière individuelle dans une œuvre que Jésus voulait élargir au plus grand nombre, c'est-à-dire faire en sorte que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes un seul corps uni par un seul esprit. Et mes frères et sœurs, ce bout de texte nous révèle une chose importante, c'est que la communion fraternelle prend son essence dans une dimension verticale et non pas horizontale. L'amitié prend sa définition dans une dimension horizontale. L'amitié, c'est ce qui lie deux personnes avec des affinités qui sont communes. Mais regardons-nous aujourd'hui. La seule chose que nous ayons en commun, c'est l'œuvre de Jésus. C'est la personne de Jésus. Et vouloir résumer la communion fraternelle, l'unité de ce corps, à des simples affinités, ce serait une erreur extrêmement grave. La communion fraternelle est tout d'abord une relation qui est verticale. Elle prend sa racine dans l'œuvre et dans la personne de Jésus que nous aimons et qui nous a appelés à la même vocation. Nous partageons des choses ensemble avec Jésus qui se trouve dans les hauteurs. Et ainsi, nous sommes une forme de pyramide qui nous dirigeons tous vers le même endroit. Communion, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, c'est un terme qui signifie mise en commun. Et c'est vrai que tous ensemble, nous mettons en commun des choses. L'Église primitive avait poussé ce raisonnement jusqu'au bout, puisqu'ils avaient vendu ce qui leur appartenait et ils attendaient ensemble le retour du Seigneur Jésus. Nous, nous mettons en commun ce que nous sommes. Nous mettons en commun nos expériences, nous mettons en commun notre passé, nous mettons en commun ce que nous sommes, nos caractères, nos capacités, nos talents, nos dons. Nous les mutualisons au service de la même cause. Et pour que tout cela fonctionne bien, pour que le corps continue d'avancer dans le même but, avec le même objectif, il est nécessaire que trois fondements soient établis. Trois fondements extrêmement pratiques, après cette notion un petit peu abstraite. Le premier fondement, je vais vous surprendre tellement il est pratique, on pourrait l'appeler la nécessité de l'accueil. La nécessité de l'accueil. Quatre textes. Romains, chapitre 16, verset 16. « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Toutes les églises de Christ vous saluent. Donc là, Paul écrit à l'église de Rome. Dans la première aux Corinthiens, chapitre 16, verset 20, « Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Dans la seconde aux Corinthiens, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 14, « Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. » Paul n'avait pas l'habitude de perdre son temps lorsqu'il écrivait. Et nous savons qu'il pesait ses mots et que ses phrases étaient extrêmement ciselées. À trois reprises, il va insister dans des églises différentes, dans des contextes différents, pour dire aux chrétiens qui composaient ses œuvres, qui composaient le corps de Christ local, « Saluez-vous d'un Saint-Baiser. Saluez-vous. » La communion fraternelle commence par là. par ce simple geste, de dire bonjour à la personne qui est à côté de vous, par dire bonjour à la personne qui est derrière vous. Et ensemble, nous voulons nous accueillir. Vous qui venez pour la première fois dans cette église, parce qu'il y en a, eh bien, nous vous accueillons dans le nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui êtes blessés par le chemin, vous qui avez été meurtris et qui avez le cœur gros, et dans le nom du Seigneur Jésus, nous vous accueillons. Soyez les bienvenus. Nous voulons nous dire à ceux que nous ne connaissons pas, ceux que nous côtoyons simplement de vue, dans le nom du Seigneur Jésus, eh bien, nous vous accueillons. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que nous voulons dire aux enfants de l'église, ça c'est important, même s'ils sont à l'école du dimanche, eh bien, on veut les prendre dans nos bras et leur dire « Vous êtes importants, vous faites partie de l'Église, nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. » C'est une notion qui est ô combien importante. Vous savez, moi j'ai le même réflexe que vous. Quand le culte est terminé, qu'est-ce que je fais? Je me demande « Où sont mes copains? Où sont mes copines ?» Afin que j'aille leur dire bonjour. C'est vrai, je les ai vus hier, je les ai vus avant-hier. Je suis obligé d'aller voir aujourd'hui. Mais je pense que ce n'est pas forcément le bon réflexe. Que le Seigneur puisse nous aider à faire en sorte, et puis que nous puissions nous-mêmes nous aider d'ailleurs, ça serait plus juste, de faire en sorte qu'à la fin du culte, lorsque nous nous levons à notre place, qui est-ce que je ne connais pas? Ou la petite blonde là-bas, assise à côté du grand brun, je la connais pas. Je vais lui dire bonjour, je vais la saluer. Hein, oh, même si elle n'a pas l'air très très commode, je vais la saluer quand même. Hein, je vais dire que le Seigneur te bénisse. Voilà, moi je m'appelle Olivier. Ou le monsieur qui est là-bas, oh, il a l'air bien sympathique. Je suis sûr qu'il vient de Vannes. Que le Seigneur te bénisse, hein. Voilà. Et je crois que c'est une notion qui est importante. Saluez-vous d'un saint baiser. La notion de baiser est importante. Le baiser. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle premièrement d'une expression spontanée. Juste l'envie de faire du bien à quelqu'un. Voilà, et la communion fraternelle part du cœur, l'accueil part du cœur, et j'ai envie de faire du bien à quelqu'un. Et je vous le dis, si nous venons au culte simplement pour recevoir, nous serons malheureux. Mais si nous venons dans l'église du Seigneur pour donner, pour offrir ce que nous sommes dans notre simplicité, ce que nous avons reçu, alors à notre tour nous recevrons. Le baiser nous parle également d'un geste d'affection ou d'amitié. Alors ça peut être une accolade, ça peut être une bonne poignée de main bien chaleureuse pour ceux qui sont... plus pudique, moins expressif, moins volubile. Mais il n'empêche que le geste est là. Il n'empêche que la volonté de tisser un lien, de montrer de l'affection est là. C'est un signe de chaleur humaine. Vous savez, Jésus a dit que c'est à l'amour que nous aurions les uns pour les autres que ceux du dehors verraient que nous sommes ses disciples. Je vous le dis souvent, je vais encore me répéter, mais l'amour, ça se montre. Il y a des années de ça, j'ai eu l'occasion de faire un mariage dans une église que je ne citerai pas. Donc, j'ai prêché, je fais mon mariage, tout le monde semblait content, c'était bien, les mariés étaient contents, on est au repas, et puis le dimanche, avec ma femme, on va au culte. Et là, mes frères et sœurs, à la fin du culte, bon culte, aucun problème, on attendait nos amis qui avaient une réunion de travail, on est resté trois quarts d'heure dans le hall. Pendant trois quarts d'heure, on a vu passer 300 personnes. Pas une seule ne nous a dit « Vous êtes de passage? Vous vous appelez comment? Vous êtes où? Vous venez d'où ?» Le pasteur est lui-même passé trois fois devant nous, sans nous dire quoi que ce soit. Attendez, jusque-là ça va. Le soir, il y avait un match de foot qui était organisé, donc mon copain me dit « Est-ce que tu veux venir jouer ?» « Oh ben écoutez, oui, ça ne se refuse pas. J'étais jeune en ce temps-là. » Pendant une heure et demie, on m'a appelé le grand vert. Personne ne s'est enquis de savoir, ne s'est inquiété de savoir comment je m'appelais. C'est scandaleux, hein? Mais vous savez que ça s'est passé chez nous, au milieu de nous? Des hommes, des femmes sont passés. 120 personnes sont passées devant eux. Pas moi. Que le Seigneur nous aide à ouvrir nos perspectives, à ouvrir un petit peu qui nous sommes, à nous dire, voilà, qui est-ce que je vais saluer? Alors, retournez-vous et choisissez une cible. Retournez-vous et choisissez une cible. Je veux que tout le monde ait une cible. D'accord ? On ne va pas le faire maintenant, parce que sinon ça va encore me squeezer mon temps de prédication. Mais à la fin du culte, voilà, je me présente Jonathan, et ainsi nous apprendrons à nous connaître. Que le nom du Seigneur soit béni. Et en conclusion de ce premier point, vous m'écoutez trop bien. En conclusion de ce premier point, que l'Église contraste avec la froideur de notre monde. Ça, c'est important. Que l'Église contraste avec la froideur de notre monde. Dans les HLM, on peut se croiser pendant des jours et des jours, partager le même ascenseur sans savoir comment s'appelle notre voisin. Que dans l'Église. Merci Seigneur, il n'en soit pas de même. Amen. Nous sommes un seul corps, unis par le même lien de l'Esprit. Alors véritablement, intéressons-nous aux richesses qui sont dans notre frère et dans notre sœur. C'est un défi pour nous. Alors relevons-le et que le Seigneur nous soit en aide. Deuxième socle que j'ai choisi pour la communion fraternelle, l'hospitalité. L'hospitalité est citée à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament également. Romains chapitre 12 verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. L'hospitalité est un moyen pour l'apôtre Paul d'aider ceux qui, à un moment ou à un autre, sont dans le besoin. Partager un bout de pain, partager une tasse de chocolat, partager un repas, c'est également manifester les fruits de la repentance. C'est également manifester vraiment le fruit, les conséquences de notre foi. Être capable d'ouvrir notre maison, je trouve que c'est important. Nous sommes une famille et dans toutes les familles, il y a des repas de famille. Il y a des repas de famille. Alors, faisons-le à notre rythme, faisons-le selon notre personnalité. Mais je crois que partager ensemble dans la communion fraternelle, partager des moments conviviaux, mais également des moments spirituels, c'est quelque chose que l'apôtre Paul dira, et il dira, c'est un moyen de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Deuxième passage où l'hospitalité est prônée, 1 Timothée, chapitre 5, verset 10, en parlant des veuves d'Éphèse, vous savez, celle dont je vous ai parlé dimanche dernier, qui était sur cette fameuse liste, et dont vous vous souvenez certainement, il est dit qu'elles soient recommandables par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonne œuvre. Pour être inscrite et pour avoir le droit à l'aide sociale de l'église d'Éphèse, il fallait que les veuves remplissent quand même des critères bien précis, et dont un, pour des femmes qui étaient dans le besoin, qu'elles exercent l'hospitalité. Sous-entendu, l'hospitalité, on peut l'exercer sans être riche. Mais tout simplement un plat de pâtes et un bout de jambon. Et pour le livre des Proverbes dit, je cite de mémoire, qu'un peu de pain sec dans une maison avec de la joie vaut mieux qu'une maison où il y ait de la viande en abondance avec la discorde. C'est un vecteur de bénédiction également pour ceux qui la pratiquent. Hébreux chapitre 13 verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Mes parents n'ont jamais été très riches, et il y a une époque de leur vie, je m'en souviens très bien, où ils tiraient vraiment la corde de tous les côtés pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, notamment des deux grands qui étaient en études. Et ils avaient l'habitude d'exercer l'hospitalité, d'ouvrir leur maison. Et je me souviendrai toujours d'une conversation que j'ai entendue alors qu'ils étaient tous les deux. Il devait inviter un couple à venir manger. Et puis maman disait, écoute, on n'a plus d'argent, on ne peut pas les inviter. Et papa lui a dit, écoute, invite-les, Dieu pourvoira. Invite-les, Dieu pourvoira. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin d'aide, invite-les, Dieu pourvoira. Moi j'étais gamin, j'écoutais à la porte. Et donc, je savais le contexte, et ces gens-là sont venus, ont été accueillis sans rien dire. Je savais, dans l'assiette, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait les fameuses et les traditionnelles endives au jambon. Ils ont passé un bon moment. Et à la fin du repas, ces personnes ont dit à mes parents, voilà, vous nous invitez régulièrement. Pendant la nuit, on priait. Et on a eu à cœur de vous donner une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y avait une somme extrêmement extrêmement confortable. C'est bien payé pour les endives au jambon. Hein. Je crois que l'hospitalité, ouvrir sa maison, échanger, partager, c'est également être en bénédiction de la part du Seigneur. L'apôtre Pierre, au chapitre 4, au verset 9, dira « Recevez-vous les uns les autres, dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres, selon le don de chacun que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs, d'autres versions traduisent comme de bons intendants, hein, qui prennent soin des dons variés de Dieu. » Comme de bons intendants. Nous avons reçu des choses de la part du Seigneur. Et les lois du royaume nous disent que pour bien gérer, il est nécessaire d'investir. L'hospitalité fait partie de la communion fraternelle, la développe. Et en la pratiquant, eh bien, nous découvrons, nous hébergerons des anges qui nous feront du bien et qui seront des outils entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas facile à pratiquer car elle coûte. Et dans ces textes, on voit que elle doit être, il n'y a pas de code. C'est-à-dire, n'invite pas simplement le pasteur, n'invite pas simplement les anciens, n'invite pas simplement ceux que tu aimes, mais exercer l'hospitalité. Elle est large, elle est variée, hein. Elle est ouverte à tous et elle est ouverte à toutes. Et on se souvient des paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 46, qui dit « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? » Je peux pousser le bouchon ? Toujours avec amour. S'il se peut que nous ayons quelques problèmes d'affinité de par nos différences, partageons un bon steak. Il y a bien des choses qui s'arrangent autour d'une table. Et nous découvrirons le passé, nous découvrirons le pourquoi des agissements des uns, le pourquoi des agissements des autres. Et ainsi, bien des incompréhensions seront gommées. La communion fraternelle doit être variée et de ce fait, elle ne doit pas être exclusive, parce que sinon elle peut devenir dangereuse. Proverbe chapitre 25, verset 17 « Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. » D'où la nécessité de la variété, de manière à éviter ce piège. Alors, cette hospitalité n'a rien à voir, d'ailleurs tout comme la communion fraternelle avec du copinage, mais c'est tout simplement la joie de rendre à Dieu ce que nous avons reçu de lui. La joie, c'est de rendre à Dieu la joie qu'il nous a donnée d'avoir des frères et d'avoir des sœurs, de partager des moments avec eux, des moments ensemble. Il ne se passera peut-être rien d'extraordinaire, mais des liens seront tissés, des liens seront renforcés, et nous vivrons quelque chose d'important. Troisième axe, rapidement, c'est promis. N'oublions jamais qu'elle a une base spirituelle, cette communion fraternelle. Si l'accueil nous paraît être quelque chose d'extrêmement pratique, peut-être trop pour les théologiens, si l'hospitalité nous paraît être quelque chose parfois d'un petit peu étrange, la troisième base, le troisième pied, est quelque chose d'extrêmement important. Et tout le monde peut le pratiquer, c'est la prière. Jacques, chapitre 5, verset 16, c'est un verset un petit peu étrange que j'ai choisi, mais on va essayer de le décortiquer. « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. » Ce qui est important dans ce verset, c'est toutes les petites conjonctions de coordination, celles qui font l'ossature et qui relient les parties de phrases entre elles. L'apôtre Jacques commence en disant « Confessez donc vos péchés. » Pour qu'une communion fraternelle soit bien vécue et soit authentique, nous avons vocation non pas à livrer nos vies publiquement et nos péchés publiquement du haut de l'estrade, mais nous avons vocation à être capables de venir nous taper sur l'épaule et de nous dire « Écoute, là tu m'as fait du mal. » Là, tu m'as blessé. Être capable, comme nous l'avons entendu au travers d'un don spirituel ce matin, d'exercer le pardon également lorsqu'il nous est demandé. C'est ça, se confesser les péchés les uns aux autres. Être capable de dire, écoute, là, ça ne le fait pas. Je ne comprends pas pourquoi tu agis ainsi. Je ne comprends pas pourquoi tu fais comme ça. Si on peut le faire, ou avec des cacahuètes au milieu, ça peut être une bonne option. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Virgule. Et priez les uns pour les autres. Il y a un ordre. Confessez d'abord et ensuite priez. Donc, la prière, en quelque sorte, est la conséquence d'une relation bonne entre nous et vient ensuite. Vous savez, lorsque Jésus dit ce texte que l'on utilise très très souvent, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Vous savez tous maintenant quel est le contexte de ce passage. C'est le pardon. C'est pas simplement une unité physique, mais c'est là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom. Et où les choses, les liens entre eux sont réellement spirituels, où il n'y a pas de zone d'ombre. Parce que, entre guillemets, leur différence, les paroles mauvaises qui ont pu être dites, les actes mauvais qui ont pu être commis, auront été mis au jour. Alors, eh bien, le Seigneur est réellement parmi eux. Afin que vous soyez guéris. La bénédiction suit ce que j'ai appelé la transparence dans nos relations. Et ensuite, cette notion de prière les uns pour les autres. Beaucoup ce verset de la première épître de Pierre, lorsque l'apôtre dit que les maris et les femmes doivent être unis afin que rien ne fasse obstacle à leur prière. Même dans un couple, les tensions, même dans un couple, les incompréhensions peuvent être des obstacles à la prière et à la bénédiction. L'unité. Ce n'est pas simplement se donner la main, se faire un baiser ou se faire une accolade et s'inviter à manger. Mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est être capable de se dire les choses les yeux dans les yeux, avec amour, avec respect de l'autre. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse. Une telle attitude nous permettra de nous connaître les uns les autres, nous permettra de développer l'empathie. J'ai beaucoup plus de facilité pour prier pour les gens que je connais que pour ceux que je ne connais pas. Vous pouvez me dire de prier pour le Bangladesh ou d'autres pays lointains, je le ferai de tout mon cœur. Mais il n'y aura certainement pas la même vie que lorsque l'un de vous me demande de prier pour lui. Parce qu'on se connaît, parce qu'on s'apprécie, parce qu'on s'aime, parce qu'il y a des liens entre nous. Papa me racontait qu'un jour il était dans une église du Sud. C'était une église qui était en déliquescence. Il y avait deux familles et elles se tapaient dessus. Il y avait 20 membres à l'époque et elles se tapaient dessus. Il y en avait 10 d'un côté de l'auditoire et puis 10 de l'autre. Et il y avait une famille qui partait par le fond à la fin du culte et l'autre qui partait par la porte du côté. Alors il a essayé, il a fait les visites, etc. Rien n'y a fait. Puis j'ai dit, bon, on va faire une semaine de jeûne et prière. Semaine de jeûne et prière se passe, il y a toujours la rangée, le grand fossé, on se serait cru un petit peu dans un des classiques du Derzo, vous savez. Et le dimanche matin, pas un culte, pas un mot. Personne ne louait. Et puis là, papa priait sur sa chaise. Et tout d'un coup, il y a la patriarche de la famille, la plus dure, celle du clan de gauche, qui se lève, puis qui va trouver le patriarche du clan de droite et qui lui tend la main. Et tout d'un coup, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu des demandes de pardon, il y a eu des choses qui ont été faites. Et immédiatement après, la semaine d'après, un boiteux marchait, un aveugle voyait, etc. Il n'y a pas de secret. Quand il y a quelque chose entre les chrétiens, l'Esprit de Dieu agit. Quand nous sommes un vrai corps, pas un corps d'apparence, pas un corps d'apparat. Pas simplement 150 personnes assises sur leurs chaises, mais des hommes et des femmes qui prions les uns pour les autres, qui se battent pour la même cause au service de la même vocation, comme dira Paul. Alors, des vies sont changées, des vies sont transformées, des malades sont guéris, des démons sont chassés. Amen. Amen. Conclusion. Deux points. Premièrement, la communion fraternelle ne se décrète pas, mais elle se cultive. On ne peut pas décider ce matin ou aujourd'hui de dire « Nous sommes tous frères et sœurs, nous vivrons une bonne communion fraternelle. » Non. C'est quelque chose que l'on cultive, c'est quelque chose que l'on crée, c'est quelque chose que l'on favorise. Ça, c'était le premier petit point. Le deuxième, les mauvaises raisons évoquées pour ne pas la vivre. J'en ai listé quelques-unes. Cinq. Rapidement. Premièrement, les autres ne peuvent rien m'apporter. Je vis ma foi seulement avec Jésus. Jésus me suffit. Ma Bible me suffit. Ce à quoi nous pouvons rétorquer assez aisément, à quoi sert-il que Jésus baptise l'Église et la préserve du séjour des morts ? À quoi sert-il qu'il m'ait institué et mis à part en tant que ministère ? À quoi sert-il qu'il veille sur ses enfants et que le psalmiste ait écrit dans le psaume 133 que c'était là où nous étions réunis que la bénédiction viendrait ? C'est faux. Et ça s'apparente, avec tout l'amour que j'ai pour vous, à un petit peu d'orgueil. Mais chut, faut pas le dire, je ne l'ai pas dit trop fort. Deuxièmement, les autres sont différents de moi, ils ne pensent pas comme moi. Ce à quoi nous pouvons rétorquer que c'est normal. Dans un corps, la main ne pense pas comme n'est pas faite de la même manière que l'oreille. Mais heureusement qu'il y a l'oreille et heureusement qu'il y a la main. Troisième, la fausse pudeur. Je n'ai pas envie de livrer ma vie aux autres. J'ai envie tout simplement qu'on me fiche la paix et que... Voilà, qu'on me laisse gérer mes problèmes. Mais la communion fraternelle, c'est pas se déballer les uns aux autres. C'est partager des choses parfois extrêmement basiques et créer des liens superficiels, mais qui auront peut-être vocation ensuite à devenir un petit peu plus profonds. Donc de grâce, n'allez pas chercher à trouver les problèmes des autres. Ça ne sert à rien s'ils ne veulent pas vous les dire. Ils ne vous les diront pas. Quatrièmement, la peur du jugement. Je ne suis pas assez bien. Ce qui équivaut à une méconnaissance bien souvent de l'autre, parce que l'autre passe la même chose de lui par rapport à vous. Je ne suis pas assez bien pour fréquenter Clairvia. Mais oui, mais elle pense la même chose de moi. Donc forcément, ça ne le fera pas. Ça ne le fera pas. Cinquièmement, je ne veux pas vivre qu'au travers de l'Église. Je ne veux pas vivre qu'au travers de l'Église. C'est-à-dire, j'ai ma vie de famille, j'ai mon travail, j'ai ma vie sociale. Oui, mais la communion fraternelle, ce n'est pas devenir sectaire. Ce n'est pas se replier sur nous-mêmes. On n'oublie pas que Jésus nous a appelés à vivre dans le monde également, hein, mais non pas selon les principes du monde. Mais tout simplement, partager des choses avec des gens, comme on le chante de temps en temps, qui nous aiment et qui nous comprennent. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Que le Seigneur nous aide. Sur ces choses éminemment pratiques, je vous demande pardon, je n'ai pas fait de la grande théologie. D'ailleurs, je n'en suis pas capable. Mais ce sont des choses éminemment pratiques. Et si nous les vivons, eh bien de manière très naturelle, nous nous ferons du bien au contact les uns des autres. De manière très naturelle, l'Esprit de Dieu nous fera du bien. Et merci parce qu'il nous le fait déjà. Et merci, et je vous le dis en toute franchise, parce qu'une église comme vous, je n'en ai pas connu beaucoup. Je n'en ai pas connu beaucoup. Et c'est un plaisir de servir et de travailler avec vous. Que le Seigneur continue de vous bénir. Amen.